Exceptionnel ce matin sur Sport Épique, messieurs dames, parce que nous avons du pur Mayennais, nous avons un Olympien, nous avons du monstre, nous avons Gabriel Bordier. Gabriel Bordier, merci, merci beaucoup d'être là.
Bonjour.
Salut, salut à toi. Gabriel Bordier, c'est 27 ans, c'est Saint-Berthevin, inscrit à Saint-Berthevin, et ça évidemment, bah, ça nous plaît, le mec, il va aller au JO, et il est de Saint-Berth, ça c'est quand même énorme. T'es toujours licencié là?
Eh ben ouais, je suis toujours licencié à Saint-Berthevin depuis toujours, donc là ça fait un moment que j'ai arrêté de compter mes distances. Hein.
Ah ouais, bah tu m'étonnes, ouais. Tu m'étonnes, c'est 27 ans je disais, et toi t'as commencé l'athlée sur Saint-Berth vers quel âge?
Autour de 5-6 ans de mémoire, assez tôt, j'habitais juste en face de la piste. Hein.
Ah ouais, ça c'est bon, ça c'est plus facile pour y aller. J'ai lu que tu avais essayé au départ, enfin tu t'orientais évidemment vers les épreuves d'endurance, à savoir le cross et le demi-fond, et puis que tu performais là-dedans forcément. Tout de suite, ça a été une passion, ça, la longue durée là.
Ouais, le goût de l'effort, de s'entraîner, de se dépenser, ça a toujours été quelque chose qui m'a attiré dans l'athlétisme.
Ouais. Et ensuite, tu te spécialises vers la marche en Benjamin avec un certain Richard Delaunay qui devait être ton entraîneur. Est-ce que pour aller vers une discipline aussi, c'est vrai que moins connue, aussi exigeante, il faut passer par un mentor, il faut passer par une famille, il faut passer par un club, il faut passer... Comment ça se passe, ça, pour arriver à une activité comme celle-là?
Non, bah c'est tout simplement par le club. C'est vrai que l'athlétisme, c'est un sport qui est très très riche avec beaucoup de disciplines, et puis
ouais,
d'un club à l'autre en fait, en fonction des entraîneurs, des disponibilités de la commune, hein, parce que on n'a pas forcément les mêmes équipements d'une ville à l'autre. Hein, on n'avait pas par exemple de tapis de perche ou de
matériel pour lancer
de marteau. Hein, j'aurais pu être un très bon lanceur de marteau si ça se trouve. mais toi, Saint-Berthevin, on avait une école de marche athlétique où tout le monde y passait un petit peu pour voir ce que ça donnait. Et puis,
ouais.
Et puis moi, j'y suis passé, j'y ai vite pris goût et j'y suis encore aujourd'hui.
Eh ben, bravo à toi. Et parce qu'on sait que dans ces rencontres d'athlétisme, là, quand les clubs proposent, quand vous allez affronter, par exemple, je ne sais pas moi, Château-Gontier, vous devez avoir quelqu'un de chaque discipline qui performe, c'est ça?
Oui, oui. Alors, sur les départementaux, on n'est pas obligé d'avoir quelqu'un sur chaque discipline.
Ah ouais.
C'est vrai qu'il y a les fameux interclubs qui arrivent prochainement au mois d'avril-mai, où forcément, le but, c'est d'avoir du monde sur toutes les disciplines pour faire un maximum de points, de combler les trous. Par exemple, souvent, je fais la marche, qui est mon épreuve de prédilection, mais je bouffe les trous sur le lancer de poids à côté pour pas avoir une bulle.
Donc, ouais. Mais là, tu plaisantes ou tu parles sérieusement?
Ah non, moi je fais régulièrement lancer de pot aux interclubs.
Ah ouais. Et à combien tu lances alors?
Oh, je me rapproche des 8 mètres tranquillement.
D'accord. Ah mais écoute, je savais pas que dans les interclubs, même en senior, après fallait continuer quand même à faire plusieurs disciplines comme ça. Je croyais que c'était réservé aux enfants, moi.
Non, mais parce que tout simplement, on n'est pas un gros club, Saint-Berthevin, donc
ouais.
On n'arrive pas forcément à combler... toutes les disciplines, et donc après, bah forcément, faut aider pour dépanner un petit peu sur les autres disciplines où on a personne.
Là où bah le mec, il va aux Jeux Olympiques et il dépanne, quoi. Mais putain, bah bravo à toi, bravo. C'est faut quand même un certain, comment on appelle ça, vraiment une humilité. Voilà, je cherchais le mot. Bravo à toi. T'es pas à l'INSEP en ce moment, Gabriel?
Non, moi.
Comment tu fonctionnes, toi?
Eh ben moi je suis, faut savoir que je suis pas sportif de professionnel ni à temps plein. Moi je suis étudiant en médecine à côté en parallèle, donc
ouais.
Je passe la majeure partie de mon temps sur Angers entre l'entraînement et puis des cours et puis mon travail d'interne en médecine à l'hôpital.
Ouais, c'est bien que t'en parles, parce que l'autre jour, on avait le fils de mon ami Yannick Prudhomme, qui lui est à la perche et qui, lui, pour le coup, bénéficie de tout le cadre de l'INSEP pour s'entraîner au jour le jour et poursuivre ses études de STAPS. Toi, t'es vraiment plongé dans ta médecine et tu dois marcher à côté. Alors, explique un peu à nos auditeurs. Évidemment, c'est une question qu'on te pose très souvent. On va pas être dans la grande originalité, mais comment on peut avoir cette double vie? Ça paraît paraît insensé. Tout le monde connaît, tout le monde a vu des films ou connaît un petit peu ces fameuses études de médecine qui demandent énormément, énormément de travail. Ben toi, en plus, tu te donnes un double emploi avec cette marche qui est extrêmement exigeante également. On se dit, c'est pas possible, quoi. Où tu trouves tout ce temps-là, toi ?
Bah, c'est tout simplement une question d'organisation. Moi, déjà, ouais. Au lycée, j'avais pas d'aménagement, j'étais pas en classe sport études, donc je m'entraînais en rentrant des cours, et puis, bah, je faisais mes leçons, mes devoirs, mes révisions après, comme tout le monde.
Ouais.
Et puis, arrivé en médecine, c'est vraiment ce goût d'apprendre, et puis de science qui m'a donné envie de m'orienter dans cette filière-là.
Ouais.
Et puis, bah, j'ai continué de m'organiser, de m'entraîner l'après-midi ou le soir, et puis de bosser mes cours dans la soirée. Alors forcément, on fait des croix sur quelque chose, hein, sur quelques petites choses sur le côté, on sort un peu moins, on fait moins la fête.
Ouais, fatalement.
Mais je pense qu'aujourd'hui, je regrette rien de ce que j'ai pu faire par le passé. Mais c'est une question d'organisation, et puis la question d'avoir tout l'équipement comme on peut avoir autour de l'INSEP, bah, moi j'ai créé ma structure un peu autour de moi sur Angers. On optimise un petit peu tout. Par exemple, moi, je suis à un quart d'heure du boulot à pied, à un quart d'heure du stade en voiture, où je peux même aller courir en sortant de chez moi. J'ai mon kiné qui est à 500 mètres de mon appartement.
Ouais.
Mon coach qui est resté en Mayenne a changé. Gérard Relief qui m'a envoyé plein d'entraînements par mail.
D'accord.
Par avec qui on communique régulièrement. Donc, j'ai entre guillemets créé ma structure autour de moi. Et puis jusqu'aujourd'hui, ça marche plutôt bien même.
Bah plutôt bien, oui, puisque tu es là, moi j'ai lu, hein, 2021, concours d'internat de médecine, tu finis 552e pour aller vers la rhumatologie, je me trompe pas ?
Ouais, c'est ça, bah toujours sur Angers, et puis là donc maintenant je suis en 3e année d'internat, donc ça fait... l'équivalent de 9e année de médecine.
Ouais, t'es un monstre. Tu nous parlais de Gérard Lelièvre, ça c'est un nom qui parle, ça, dans le département. Il te suit depuis des années, là ?
Ouais, il me suit depuis, je dis pas de bêtises, depuis environ 2015.
Ah oui.
Même un petit peu avant de loin, je sais qu'il conseillait mon ancien entraîneur, Gilbert Belin, qui était à Saint-Berthevin, qui a été une rencontre importante dans mon parcours de sportif. Mais,
ouais.
Mais ouais, depuis 2015-2016, Gérard me suit au quotidien, quasiment.
Et alors, comment on fait là pour suivre un sportif comme toi comment on dose cet entraînement? C'est quoi un rythme sur une semaine? Comment on amène? On avait l'autre jour, c'est pareil, on avait une jeune athlète qui était au championnat de France là, de cross à Albi, et on demandait à son entraîneur comment il arrive à l'amener en pic de forme au moment M. Toi, ça se passe comment là sur t'en es où là, par rapport au JO là, qui est peut-être le sommet de ta saison évidemment, mais il y a peut-être d'autres dates avant ça bien sûr.
Ouais, bah les JO c'est forcément l'apothéose de la saison et là où il faut que le pic de forme soit au top. Mais on construit la saison progressivement. Alors les championnats de France c'était plus une étape la semaine dernière qu'un aboutissement de cette saison bien sûr.
Ouais.
Mais là on travaille surtout sur une du travail d'endurance cet hiver pour pouvoir encaisser les séances sur la saison estivale et puis travailler en vitesse progressivement. On diminue la charge à l'approche des compétitions, donc on fait comme ça. Et puis avec Gérard, on échange au jour le jour, on adapte au quotidien l'entraînement, soit en diminuant, en augmentant, on s'adapte au quotidien. Pour être le plus performant possible.
Et évidemment, à la sport épique, avec les JO, on est complètement passionné d'athlètes. Ça y est, vous allez être les rois là, pendant cette quinzaine, bien sûr. Comment toi, là, sur une semaine lambda, là, c'est quoi ton rythme actuellement? Donc là, on est en mars, on est fin mars. C'est quoi ton rythme pour l'instant, là?
Eh ben, mon rythme, c'est assez varié, hein, les journées, les semaines, mais grossièrement... Je travaille à l'hôpital au CHU d'Angers dans le service de rhématologie où je suis détaché 3 demi-journées de la semaine pour m'entraîner. Donc soit je m'entraîne la demi-journée où je m'entraîne pas, soit le soir après le boulot comme tout le monde ferait. Hein.
Ouais.
Et donc bah je fais ma journée et puis je vais m'entraîner. Alors ça peut varier, ça peut être une séance de footing, de marche, de muscu, de natation, de vélo suivant les périodes et puis les entraînements, ça dépend, ça peut être 10 km de récupération comme 25 avec du travail de fractionné, d'endurance, de seuil, c'est très varié et puis on s'ennuie jamais à l'entraînement. Hein.
Ah ouais, tu t'ennuies jamais à l'entraînement. Ça, c'est faut le dire, ça, parce que c'est vrai que l'athlète, quand on voit ça de loin, ça peut paraître un peu rébarbatif par moment. Mais non, toi, tu dis que tu t'ennuies pas, toi.
Bah non, parce que c'est très varié. Et puis, on y va pour le plaisir. Hein. De toute façon, si c'est la base du sport. Et puis,
ouais, c'est sûr.
De continuer. Et puis, même dans le sport de compétition, c'est la base du sport, ça doit rester plaisir.
C'est sûr, quand on peut, bien sûr. 2014, tes premiers championnats de France cadets, où tu gagnes et tu bats le record du France la même année, apparemment. 2015, tu te consacres à ton concours de première année. Bah ouais, faut bien un moment que tu travailles aussi un peu. Et quand tu reprends l'entraînement, c'est tout de suite du 10 000 championnat de France et tu deviens encore, tu prends le titre. C'est de la folie, là. Tu as eu une progression de dingue, ou attention, hein, sans minorer tes performances et tout, ou tu penses que tu bénéficies du fait qu'il n'y a pas grand monde sur cette discipline?
Ah bah on ne saura jamais, hein. De toute façon, ce qu'on dit, c'est que les absents ont toujours tort.
Ouais.
C'est sûr, c'est que depuis le début de mon parcours et que je suis accompagné de Gérard, on a une progression qui est linéaire, et puis on a réussi à être présent sur tous les championnats de France quasiment.
Ouais.
Et puis de progresser d'année en année jusqu'aux Jeux Olympiques et puis au dernier championnat. Donc
ouais.
Non, c'est sûr, ça fait plaisir.
Parce que 2016, c'est l'équipe de France, et tu pars, ça y est, ça commence après la grande aventure, quoi. Et tu fais un championnat du monde au Qatar en 2019, tu fais les Jeux en 2021. Mais ça parle nous un peu de ça, quoi. C'est de la folie, ça, de faire les Jeux. C'est, pour un athlète, j'imagine, c'est la consécration suprême, quoi.
Ouais, bah, c'est un peu le big boss du sport de haut niveau, du moins en athlétisme, les Jeux Olympiques, donc ben j'ai essayé une fois, j'ai pas gagné. On va essayer de reparticiper cet été pour faire encore mieux. Hein,
24e, je lisais.
Ouais, c'est ça, 24e.
24e, extra, 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 c'est énorme. C'est énorme. Je voyais 2019 au Qatar que tu avais souffert d'une certaine chaleur. Donc, est-ce que toi, tu étais vent debout contre ces organisations de haute compétition dans des pays qui ne peuvent pas, simplement à cause des événements climatiques, tu ne peux pas organiser un marathon sous 45 degrés. Vous, le 20 bornes ou le 50 bornes marche, c'est un petit peu la même problématique. Enfin, j'imagine qu'il faut faire attention quand même au corps humain, non ?
Ouais, non, mais c'est sûr qu'aujourd'hui, c'est une question qu'on se pose au quotidien. La place du sport dans le monde actuel, avec toute la question du réchauffement climatique. Ce qui est sûr, c'est que le jour de la compétition, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, tout le monde est sur la même ligne de départ et que...
Ouais.
Et qu'il y en a qui se posent pas la question de la météo, hein, donc.
Mais on a, alors peut-être pas ton mentor, mais en tout cas la personne qu'on connaît le plus dans la marche à pied, c'est bien sûr Johan Diniz. Johan Diniz, on l'a vu sur plusieurs championnats du monde, sur plusieurs Olympiades, au bout du bout, qui est quelqu'un qui titubait, quelqu'un qui souffrait, et on se dit, oui, il y a des conditions quand même qui font que, à un moment, le corps humain, faut faire attention à lui aussi. Et c'est vrai, quand on voit une Coupe du Monde. Un championnat du monde, en tout cas pour vous au Qatar, quand tu vois la Coupe du Monde de foot qui était au Qatar également, faut faire attention au corps humain quand même, quoi, j'imagine, dans vos disciplines, quoi.
Ouais, c'est sûr, et puis la finalité du sport de haut niveau, après, ça reste se dépasser, d'aller chercher la meilleure performance possible, donc forcément ça passe par se dépasser, et puis quand on se rapproche du mur, ça passe par des défaillances.
Ouais.
Et c'est les contre-coups du sport de haut niveau, de l'entraînement, de la compétition. C'est le côté un peu plus sombre.
Ouais, mais bon, que tous ces sportifs-là connaissent, hein, parce qu'évidemment, sur des sports exigeants comme ça, on ne peut pas être au top tout le temps. J'étais performance, Gabriel, alors que j'ai rien inventé, je les ai trouvés. Ton 5000, t'es en 18-39. Ton 10 000, t'es en 38-18. Et ton 20 km, t'es en 1:18:59. Alors, moi, quand je lis ça, parce que nous, tu sais, un sport épique, on est plutôt coureurs. Quand je lis ça, je suis estomaqué, je suis tout ce que tu veux, parce que même en courant à un niveau correct, on n'y arrive pas, forcément, on n'y arrive pas. Quand t'es en 1:18:59, c'est hallucinant sur du 20 km marche, là.
Ouais, non, mais pour moi aussi, ça a été un petit coup sur les crânes. Cet été, ça a été une compétition, c'était au championnat du monde de Budapest cet été 2023,
ouais.
Où il y a eu un niveau, et puis c'était une compétition un peu hors du temps, parce que tous les athlètes ont transcendé leur niveau, et puis moi avec tout le monde, et puis c'est sûr que je suis sur un championnat du monde avec des conditions qui étaient presque optimales, et puis depuis la confrontation, on réalise des performances qu'on se pensait pas forcément capable de faire avant la course.
Ah mais c'est dingue, ça t'envoie, ça doit être du 3,45 au 1000 peut-être quand t'es sur du 19.
Non, ça fait du 3,57, une 18,59.
Du 3,57 tu dis?
Ouais.
Ah oui, je suis bête. C'est sur 20 bornes, c'est pas sur 21. Moi, je fais par rapport au semi, ouais. Ouais. Non, mais c'est hallucinant comme truc. Bravo à toi. Et forcément, là, du coup, on s'interroge. Tu sais toujours avec ces fameux juges, ce que vous avez le droit de faire ou de pas faire, la limite entre marche et course. Là, évidemment, on reprend une fois de plus le plus célèbre d'entre vous. C'était Johan Didis. Combien de fois le pauvre, il a été piqué avec les juges et ainsi de suite. Est-ce que vous le savez? Quand vous trichez, ou c'est vraiment ou non, c'est par moments c'est inconscient, et parfois bah, vous trichez absolument pas d'ailleurs. Comment ça se passe ça, cette petite limite entre marche et course là?
Eh bien, faut savoir que sur le parcours, nous habituellement c'est plutôt une boucle de 1 km, 500 mètres en aller-retour. Ouais. Sur cette boucle, il y a des juges, donc environ 4-6, ça dépend un peu des compétitions, qui jugent tous les athlètes. Et à partir du moment où un juge considère que la marche d'un athlète est pas réglementaire, il mène un avertissement avec une palette rouge, et qu'à partir du moment où il y a 3 palettes rouges de 3 juges différents, donc sur le parcours, il y a, alors actuellement c'est une pénalité de temps, et puis le quatrième palette rouge est disqualificatif de cette compétition. Donc c'est sûr que ça rajoute une contrainte en plus qu'en course à pied, hein,
ouais,
où il faut rester vigilant sur sa technique du début à la fin.
Ouais.
Alors il y a des athlètes qui ont une technique qui est un petit peu plus limite que d'autres, et ça ils le savent, et forcément ils en jouent un petit peu.
Ouais.
Mais arrivé sur la fin de course, il faut rester vigilant, et même dans les derniers mètres, il faut rester réglementaire, et parce que le chef juge qui est dans les 100 derniers mètres, il a le droit de disqualifier d'office un athlète qui jugera.
Ah c'est affreux. Ça, tu l'as déjà vécu la frustration là d'être éliminé comme ça?
Ça m'est arrivé une fois sur un meeting où sur les 200 derniers mètres, j'ai accéléré, j'ai été moins vigilant.
Ouais.
Et je me suis fait disqualifier comme ça. Et puis, j'ai appris, ça m'est arrivé une fois, ça m'arrivera pas deux.
Ouais, j'imagine, ça doit être affreux. Ça doit être affreux. Et du coup, c'est Diagana qui est souvent en train de commenter vos courses. Diagana qui parle merveilleusement de l'athlée, évidemment, que ce soit de toutes les disciplines, mais de la marche également. Il vous parle de cette fameuse tactique de ceux justement qui savent qu'ils sont un petit peu borderline, ils savent qu'ils sont un petit peu limite, donc ils restent en peloton le plus longtemps possible, parce que pour un juge, oui, c'est plus compliqué évidemment de vous sanctionner au milieu d'un peloton. On voit moins vos petites erreurs ou vos petites tricheries, même si c'est pas forcément de la tricherie, mais on le voit moins ça au milieu de toutes les jambes là.
Oui, bien sûr. Ouais.
Et donc toi, par exemple, tu fais exprès par moment de rester en peloton, ou ça te dérange pas de t'isoler toi?
Non, moi j'ai la chance d'avoir une technique qui est relativement propre et de prendre quasiment aucun carton. Donc,
ouais.
Donc peloton ou pas peloton, moi ça changera pas grand chose. Et puis quand je prends le départ d'une course, qu'il y ait des juges ou pas de juges, pour moi ça change presque pas grand chose. Et
ah oui, ah oui.
Et j'ai même pas forcément besoin de faire attention aux juges.
Ah d'accord.
Au départ de la course, ouais.
Ah oui, d'accord.
Il y a des conditions où des fois c'est malheureux et on marche un petit peu moins bien pour une raison X ou Y, mais moi ça m'arrive extrêmement rarement aujourd'hui.
Ah d'accord, ouais, parce que tant mieux pour toi, hein, parce que c'est sûr que putain, ça doit être à la fin de cet effort-là, si tu te fais sortir dans les 200 derniers matchs, je disais, c'est affreux. Est-ce que chez vous, on pourrait faire du Zatopek, tu te rappelles à l'époque, quand le gars doublait 1500, 5000, 10000 et marathon dans les mêmes Olympiades, est-ce que toi, tu crois que c'est envisageable qu'un athlète de votre discipline fasse le 20 et le 50, ou non, c'est un effort tellement dur que c'est plus du tout possible ça?
Alors, il y en a qui l'ont fait par le passé. Aujourd'hui, la question ne se pose plus, vu qu'il y a plus de 50 km marche depuis les Jeux de 2021.
Ah, d'accord. Ah, ben, je savais pas, tu vois.
Des Jeux Olympiques et des championnats internationaux au profit du 35 km plus court, et aux Jeux Olympiques, le 50 km marche, qui était la dernière épreuve, du moins de l'athlétisme, qui était non mixte.
Ouais.
J'ai jamais eu de femme à faire un 50 km aux Jeux Olympiques.
D'accord.
Cela a été remplacé par un relais mixte sur un format marathon, avec un homme et une femme qui font chacun environ 10 km alternativement.
Alors attends, redis-nous ce qui reste maintenant au JO. T'as le 20 bombes, donc toi, c'est toi, tu vas être là-dessus.
Bien sûr, ouais.
Et donc, qu'est-ce qui reste? L'autre épreuve, c'est quoi alors?
Ce serait un relais mixte sur un format marathon divisé en 4 portions avec 4 hommes et une femme qui feraient chacun deux relais, chacun son tour. Donc, 10 km, le temps de récupérer avec la partenaire qui ferait son 10,5 km. Et puis après, on refait un second des 10,5 km avant de passer le relais à la...
C'est à la mode, là, cette mixité, là, je vois en triathlon, en nage, chez vous, là, en marche, tu dois l'avoir sur d'autres, sur les relais également, là, de plus en plus sur la piste aussi. C'est, c'est sympa, ça, c'est sympa comme initiative aussi, ça. Tout nouveau, tout frais, tout beau, c'est dans l'air du temps, c'est parfait. Qu'est-ce que tu nous dis d'autre? C'est quoi là tes objectifs là pour ces JO de Paris, toi?
Eh ben moi j'en reste sur une 10e place au dernier championnat du monde 2023. Donc l'objectif sera d'aller chercher encore une meilleure place sur les Jeux de Paris et puis rapporter des très belles places.
Ouais. Donc toi tu peux envisager un top 10, ouais.
Ah bah je peux l'envisager, j'envisage aujourd'hui.
Tu l'envisages, ouais. Oh là là, c'est monstrueux le mec. On a un top 10 sur l'autre radio, c'est de la folie totale. Je t'ai vu à France 3 l'autre jour, Gabriel. C'était le dimanche soir là où ils te remettent un petit peu les actualités sportives de la région du week-end. T'es beau comme un dieu, t'es taillé évidemment. Qu'est-ce que ça donne ces fameux régimes? Tu sais, on connaît les régimes en judo, on connaît les régimes en boxe pour rester dans des poids, dans des moins de 60 kilos, moins de 70 et ainsi de suite. Vous évidemment, il faut avoir le moins de poids possible aussi. Comment ça se passe là? C'est vraiment drastique, c'est vraiment contraignant, c'est vraiment comment c'est ça?
Non. Bah après, il faut manger équilibré. Il faut manger comme on le recommanderait à tout le monde. Il y a pas de règle. Moi, je m'applique pas à respecter un régime drastique.
Ah ouais.
Je suis nutritionniste. Je mange équilibré et puis en adéquation avec mes efforts. Hein, donc,
d'accord.
Pas de secret particulier.
D'accord. Il y a pas forcément. Tu vois, tu t'imposes pas encore ça. Peut-être que c'est aussi l'avenir de la discipline. Tu sais, on parle de professionnalisation que ce soit dans le rugby où évidemment ça a beaucoup progressé ensuite, que ce soit sur les 100 mètres, sur les 400 mètres et ainsi de suite. Si vous n'avez pas encore travaillé là-dessus, il y a peut-être encore des secondes à gagner sur ce pôle-là. Attention, hein, moi je suis personne pour parler, hein, mais peut-être qu'on peut aller encore plus loin là-dessus.
Oui, pourquoi pas. Après, on peut toujours tout optimiser aujourd'hui.
Ouais. Alors, comme tu nous disais tout à l'heure, hein, c'est purement amateur, là, la marche à pied, pour l'instant, en France. C'est ça, hein?
Oui. Après, si j'avais la volonté, je pense que je pourrais professionnaliser ma pratique et puis faire que ça aujourd'hui. Après, je fais le choix d'avoir une activité professionnelle à côté parce que je trouve ça beaucoup plus épanouissant.
Ouais, c'est sûr. C'est sûr, mais tu vois, je disais ça par rapport à donc quand tu dois aller aux championnats du monde, quand tu dois aller sur les différentes compétitions nationales ou internationales, est-ce que la Fédé quand même t'aide à prendre en charge tout ce qui est déplacement, hôtel et ainsi de suite, ou non, c'est tout pour toi?
Non, bien sûr, on a des aides fédérales et puis également des collectivités ou des partenaires sponsors pour nos déplacements, nos championnats ou nos besoins en matériel.
Ah oui, quand même, ouais.
Par exemple, il faut savoir que sur un championnat du monde ou les Jeux Olympiques, on ne paye pas nos déplacements et puis notre équipement est fourni par la fédération.
Ouais, alors l'équipement, il est plutôt... ça va. La Fédé n'a pas trop à débourser quand même. Vous n'avez pas grand-chose sur vous.
Non, mais c'est quand même quelque chose à prendre en compte.
Ouais, c'est sûr. Dis-moi, Gabriel, sur les... nous, on t'avait vu, c'était en 2021 à Laval, où il y avait eu le championnat de France. Donc là, tu courais à domicile là, sur le 20 bornes. Et on vous voyait sur cet aller-retour. Là. Est-ce que c'est toujours comme ça, les compétitions?
Oui, c'est ça. Ouais, c'est très régulièrement un aller-retour de 500 mètres. Alors des fois, on arrive à faire une boucle, mais c'est beaucoup plus complexe à mettre en place.
Ouais, pour tout ce qui est juge et tout ça.
Et puis en termes de... comment dire, d'organisation, il faut avoir le parcours qui fasse pile poil la bonne distance aussi.
Ouais, mais alors pour vous, c'est quand même, c'est sacrément, c'est rébarbatif, frustrant, tout ce qu'on veut, mais c'est un tournant en rond comme ça, au bout d'un moment, faut en vouloir quand même, quoi.
Oui, c'est sûr, après, les athlètes qui font du 10 000 mètres sur la piste avec 25 tours, ou...
Oui, c'est vrai, c'est vrai.
De Formule 1, ou sur plein
oui, c'est vrai.
Plein de disciplines habituées à tourner en rond, et puis du fait de... du contexte de la compétition, ça permet de réguler beaucoup plus l'effort, d'être régulier, d'avoir son ravitaillement autour le tour, son coach sur le bord du parcours tous les kilomètres. Donc ça.
Ouais, c'est vrai aussi. Ouais. C'est vrai aussi. Mais c'est bizarre. Écoute, je te vois pas sur le halage, je te vois pas au bois de l'huisserie, je te vois pas. Comment, enfin toi ou un autre marcheur d'ailleurs, on vous voit pas vous entraîner. Vous faites ça que autour de la piste ou non? Vous venez un peu dans la nature par moment?
Non, mais parce que je m'entraîne sur Angers principalement là où je travaille, et puis quand je rentre en Mayenne, ce qui est moins fréquent aujourd'hui, je m'entraîne plutôt sur Saint-Berthevin, côté de mon club. Ouais.
Ok, t'as tort, hein, il faut revenir plus souvent en Mayenne, c'est le plus beau des départements évidemment. Mais oui, comment ça se passe autrement? Tu vas, alors je te dis, hein, pas forcément toi, mais un marcheur lambda, vous restez sur la piste parce que sur la piste vous êtes sûr de pas vous faire d'entorse ou des choses comme ça, ou non, vous allez quand même dans les bois et vous entraînez?
Non, alors nous, il nous faut plutôt un terrain stable, qui est plutôt dur pour avoir un appui stable, parce qu'on est tout le pied, donc on peut pas avoir de terrain stable avec des racines, des cailloux, c'est complexe. Et puis après, on trouve des chemins très bien, comme sur les chemins de halage ou alors sinon la piste, mais ça permet d'être plus régulier sur la piste avec 400 mètres, 100 mètres, 200 mètres, et puis d'avoir le temps tous les...
Bah oui, forcément.
Plus régulier, pas biaisé comme on peut l'avoir avec le GPS aujourd'hui.
Ouais, forcément, forcément. Dis donc, il y a un truc qu'il va falloir que tu m'expliques. Sur tes 20 bornes, là, je vois des écarts de temps de fou. Entre ton record donc, qui est incroyable à 1:18:59, et parfois tu vas tourner autour de 1:35, 1:38. Comment t'expliques ça là? Sachant qu'on vous fait tourner sur un kilomètre plutôt plat, c'est quoi ces différences énormes entre tes performances là?
Bah, ça dépend des conditions de course, de la météo, de l'état physique aussi, hein, parce que quand on finit la course en étant un petit peu cramé, et forcément le chrono va à la dérive, et puis
ça va
sentir sur la performance. Ouais.
Ah ouais, mais tu vois, tu arrives quand même à arracher des titres avec des chronos en 1:35 quand tu as un record en 1:19. C'est assez étonnant parce que quand on regarde les marathoniens, le très très haut niveau va toujours se jouer aux alentours de 2h01, 2, 3, 4. Il n'y a jamais quelqu'un qui va gagner en 2h15 ou 2h20. Et vous, il y a un vrai écart de 10-15 minutes parfois entre les records. Ouais, c'est assez étonnant quand j'ai lu ça.
Alors tout est à comparer, parce que les marathoniens qui gagnent en 2h01, en 2h02, ça va être sur des grands meetings où les conditions seront optimales. Sur un championnat du monde de marathon, ça ne gagne pas forcément en
2h01. Oui, tu as raison. Ouais. Oui, forcément.
Un championnat du monde de marche au Qatar, ça ne gagnera pas en 1h18.
Ouais.
Un grand meeting où la performance devrait être au rendez-vous, ça ira beaucoup plus vite aussi. Il faut prendre en compte les conditions à côté.
Ouais, c'est sûr, c'est sûr. En tout cas, écoute, nous on te remercie beaucoup, beaucoup de nous avoir accordé un moment. Alors, parce que forcément, on imagine ton emploi du temps de cinglé. On est à fond derrière toi, notre Mayenné qui va aux Jeux Olympiques. On est tout fiers en plus, même si c'est par procuration, bien sûr. On te souhaite le meilleur, vraiment le meilleur, Gabriel. Et on reviendra vers toi, j'espère, avec une médaille autour du cou ou sans la médaille. On sera heureux de revenir vers toi après les Jeux Olympiques, en tout cas.
Eh ben, c'est avec plaisir. Hein. Et puis à une prochaine fois.
À une prochaine fois, avec grand plaisir. Merci beaucoup encore, Gabriel. À très bientôt et bon courage pour les JO.
Merci.